Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 26 mars 2022. La coalition d'agression militaire sous commandement saoudien est plus que jamais dans l'impasse, s'étend jour pour jour après le début de son offensive contre le Yémen. En effet, 7 ans après les premières frappes contre le Yémen, le 26 mars 2015, l'intervention militaire de Riyad et de ses alliés régionaux et internationaux s'est soldée par un échec total, ayant causé la mort de centaines de milliers de personnes et provoqué l'une des pires crises humanitaires au monde. Sur le terrain, la résistance yéménite a multiplié ses attaques aux drones et aux missiles contre l'Arabie saoudite, mais aussi les Émirats arabes unis, et changé, notamment au cours des derniers mois, le rapport des forces. À cette occasion, la diplomatie iranienne a appelé à la fin de l'agression saoudienne et du blocus cruel imposé à la population yéménite, soulignant en effet la nécessité d'un dialogue pour mettre fin à cette crise, à cette guerre, en dehors de toute ingérence étrangère. Aujourd'hui, et à l'occasion du 7e anniversaire de la guerre saoudienne contre le Yémen, nous allons analyser les principales raisons de l'échec de la coalition saoudo-occidentale au Yémen, les victoires successives de la résistance yéménite, ses percées technologiques et militaires et la perspective, en effet, du conflit au Yémen. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
De quelle nature pourrait bien être cette mer des surprises que le ministre yéménite de la Défense, Nasser Al-Attefi, vient de promettre à la coalition saoudo-émirati ? Surprise qui a le croire, et on peut effectivement le croire, car en 8 ans de guerre, Ansar Allah n'a jamais bluffé, changera définitivement le rapport des forces et dont la perspective semble avoir terrorisé non seulement l'Arabie saoudite et les Émirats, mais encore cette partie qui agit depuis 2015 dans leur ombre et en toute discrétion, à savoir Israël. Vu l'ampleur inattendue qu'ont pris depuis le 14 mars les frappes balistiques d'Ansar Allah ou les combinaisons missiles balistiques, missiles de croisière, drones ont étendu étape par étape leur champ d'action pour cibler d'abord le sud, puis le sud et le centre. Et enfin, et lors d'une seule opération, le sud, le centre et l'ouest avec un filigrane, Riyad, Yanbu, Jizandaran et Pakaramko, et les sites pétrogaziers que la résistance yéménite frappe régulièrement au point d'endosser la production et influer le marché mondial du pétrole, mais encore, et pour la première fois, des installations pétrochimiques et surtout les usines de dessalement, signe que le conflit dépasse le seuil de l'irréversible, cette surprise ne pourrait qu'être de nature balistique. Selon une toute dernière information, les Saoudiens sont dans tous leurs états, tout comme les Émirats, depuis qu'Ansar Allah a établi une énième équation de force, ciblage des infrastructures saoudiennes, eau, électricité et pétrole, contre levée de l'embargo. Et la panique est si profonde que l'axe Riyad-Abu Dhabi en a été à frapper à la porte du Hezbollah pour une médiation. Et si ce n'était que des infrastructures ? Ansar Allah a clairement fait comprendre qu'il fermera le détroit de Bab el-Mandeb et qu'il possède tous les moyens pour le faire. Du coup, l'axe US-Grande-Bretagne-Riyad-Abu Dhabi voit partout en mer Rouge des bateaux piégés, des mines sous-marines et même des torpilles et tire évidemment sur tout ce qui bouge au nom de la prévention. En effet, cette crainte n'est pas uniquement celle de Riyad ou d'Abu Dhabi, mais aussi et surtout celle d'Israël. Car qu'on se le dise, l'une des principales raisons de la guerre menée par les États-Unis et ses sbires aura été le contrôle des voies navigables, en particulier de Bab el-Mandeb, en raison de son importance géopolitique qui rend celui qui le contrôle le maître d'au moins 10% du mouvement commercial international. Bref, la faim subie par des millions de Yéménites aura un prix infiniment lourd à payer, largement bien plus lourd que le seul dysfonctionnement d'Aramco.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Je vais tout de suite vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Damas avec Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, et depuis Paris avec Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales. Madame Armidani, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et merci de votre invitation. Merci. Bonjour à toute l'équipe Presse TV. À tous les téléspectateurs, à Maître Develay aussi.
Merci, Madame Idani. Madame Idani, alors, 7 ans, jour pour jour, après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, le constat est unanimement partagé, à savoir le fiasco total du camp saoudo-occidental, non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan politique. Alors, si on remonte en arrière, sur le plan politique et militaire, bien entendu, alors les motivations politiques et économiques constituaient, entre autres, des principales raisons de l'intervention militaire de la coalition d'agression saoudienne. Mais aujourd'hui, comme vous le savez très bien, alors le régime de Riyad a mobilisé tous ses moyens et instrumentaliser en effet toutes les questions, entre autres la crise ukrainienne, on va y revenir, justement pour pouvoir sortir du bourbier yéménite. Alors, quel premier regard portez-vous sur les principales raisons de l'échec, de la défaite en effet, du camp saoudo-occidental au Yémen?
D'abord, elles sont assez nombreuses, je peux dire. D'abord, c'est une agression en bonne et due forme, que l'Arabie saoudite et les Émirats sous le contrôle des Américains ou à la demande des Américains mènent depuis 7 ans contre le peuple yéménite, qui est un peuple en fait qui n'a agressé personne. Et ils l'ont agressé non seulement en bombardant, mais de manière absolument folle. Et c'était une folie tueuse en détruisant toute l'infrastructure, toutes les possibilités de vie, etc., en bombardant même la population civile de manière à faire le maximum de morts et de blessés, en faisant un blocus qui empêche aussi le peuple de vivre dans une période de corona et donc empêchant toute arrivée de secours et humanitaire et de moyens de vie du style les produits pétroliers, les produits de première nécessité, les produits alimentaires, etc., en ayant détruit tous les moyens de production aussi yéménites. Donc c'est une guerre meurtrière criminelle qui est menée contre le peuple yéménite depuis 7 ans. Un autre point, donc face à cela, bien sûr, c'est à la commande des États-Unis et d'Israël. Et l'objectif principal de cette guerre, c'est que permettre toujours, ou que les Américains, par le biais des Saoudiens et les alliés, donc les Émiratis, puissent avoir la main mise sur tous les passages de l'eau, en fait tous les passages maritimes du commerce international. Il faut quand même savoir qu'il y a bon nombre, justement un pourcentage important du commerce international qui transite par Bab el-Mandeb, la mer Rouge, et puis qui passe dans le canal après. Donc ça, cette agression, elle est caractérisée, elle est je dirais, pour toute personne qui a un peu de conscience et un peu d'humanité, elle ne peut que la réfuter, la rejeter, etc. Face à cela, les deux poids deux mesures américains de la presse internationale, mais ils ont complètement gardé sous silence et occulté toute expression du peuple yéménite et toute expression concernant ces crimes qui sont commis tous les jours contre le peuple yéménite. Un autre point qui est important à voir, c'est que cette agression a renforcé l'axe de la résistance, a renforcé les liens tissés entre les révolutionnaires yéménites et les révolutionnaires de la région, la République arabe, la République iranienne, islamique de l'Iran, mais aussi ils ont augmenté leurs liens avec l'ensemble des pays de l'axe de la résistance, avec les Palestiniens, avec le Hezbollah et la Syrie. Donc en fait, les révolutionnaires yéménites ont pu tisser effectivement ces liens importants. Ils sont soutenus et eux-mêmes, ils ont aussi tisser leurs liens avec l'ensemble des composantes du peuple yéménite, ce qui fait que l'échec, il est venu non seulement sur le plan militaire, mais aussi sur le plan social. Ils ont réussi à reconstituer, à constituer une unité sociale du pays, une unité nationale du peuple yéménite, alors que les Saoudiens et les Émiratis voulaient diviser à coup de billets, je dirais, et à coup d'avantages comme ça distribués. Mais en fait, c'est vrai que l'ensemble, le Ansar Allah ont réussi par une grande diplomatie et une grande capacité à la fois diplomatique, mais aussi l'amour de leur pays. Ils ont réussi à convaincre tout
Merci
le monde à
Madame
se rallier à eux. D'où aussi la libération d'une grande partie du territoire yéménite et la reprise de contrôle, en fait, de l'ensemble de la société. Ça, c'est un point qui est très, très important.
Merci, Madame Edani.
Et puis, l'aide du Front de la Résistance.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous. On va tout de suite rejoindre à Damas Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour, merci à vous. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Madame Edani.
Maître Develet, alors, 7 ans après le début de l'offensive saoudienne contre le Yémen, où en est-on de cette guerre sur le plan militaire, sur le plan politique, sans oublier, bien entendu, d'une part, les conséquences désastreuses de cette offensive sur la situation humanitaire, sans oublier l'implication des pays occidentaux avec leur géométrie variable, en effet, leur politique de deux poids, deux mesures, notamment sur le droit international, et avec cette intelligence, non seulement diplomatique, mais surtout stratégique de la résistance yéménite.
Alors, vous l'avez souligné, en fait, la guerre au Yémen est un marqueur plus que jamais de cette évolution rapide de l'ordre géopolitique actuel. Et quand je dis l'ordre géopolitique, ce n'est pas seulement les relations internationales entre États, mais aussi l'ordre institutionnel lui-même, dans la mesure où, et vous le soulignez à l'instant, alors même que l'hystérie médiatique bat son plein concernant l'opération militaire spéciale de la Russie en Ukraine, la guerre du Yémen est sur le point d'entamer sa 8e année et dans un silence médiatique et je dirais institutionnel assourdissant, avec près de maintenant 400 000 victimes civiles, 60% étant plus ou moins atteints par les dégâts causés par les bombardements incessants, destruction des infrastructures, des hôpitaux, accès à la nourriture compromis, avec donc une famine, une épidémie de choléra qui est complètement hors de contrôle, Et malgré tout, Madame Milani a bien fait de souligner, la résistance yéménite et l'armée yéménite ont réussi à créer une cohésion qui permet, bon l'an, mal an, de subvenir aux besoins de la population. Et c'est ce qui fait justement qu'aujourd'hui, ils sont la seule autorité légitime politique au Yémen. Et qu'en cela, le cadre adopté par les Nations Unies fin 2015 au travers de cette résolution 2216 est complètement obsolète, non seulement grâce à cette action concertée de la coalition de la résistance yéménite, l'armée yéménite, comme je le disais à l'instant, mais aussi, et c'est surtout la grande différence après 7 ans de conflit, c'est l'inversion totale de l'équation militaire, avec une résistance qui maintenant est capable de calibrer à la dizaine de mètres près ses attaques, déjouer tous les systèmes de détection radar les plus sophistiqués et compromettre sérieusement la capacité pour les principaux membres de la coalition, donc à savoir l'Arabie Saoudite et les Émirats, à pouvoir financer, générer et eux-mêmes continuer à avoir une économie qui soit attrayante et propice aux investissements. J'ajouterais à cela que dans l'ordre fluctuant actuel de la géopolitique, où on entend des rumeurs comme quoi Riyad serait par exemple tenté de réactiver des pourparlers avec la Chine portant sur la vente de leur crude en yuan, en cela, en Saoula ne se laisse pas compter, ils ont utilisé la plateforme médiatique générée par le sommet de la conférence islamique à Islamabad pour se rappeler au bon souvenir, par exemple, des Chinois qui seraient peut-être tentés de fournir eux-mêmes remplacer, si je puis dire, peut-être certains États occidentaux dans la fourniture de systèmes de défense balistique qui fassent le travail, entre guillemets, ou alors par rapport, comme je le disais à l'instant, de collaborer avec Riyad sur l'échange énergétique, en disant faites attention, calculez bien vos intérêts sur le long terme, parce que nous sommes là, nous n'allons pas disparaître, nous sommes de plus en plus forts, nous avons la main sur les opérations militaires. C'est une question, il faut bien le comprendre. On n'est pas du tout dans une situation plus ou moins similaire à ce qu'on pourrait voir en Ukraine, où on peut penser qu'en quelques semaines, les objectifs stratégiques seront accomplis. C'est vraiment une guerre d'attrition où la population civile est vraiment ciblée comme paramètre principal par la coalition pour essayer de la retourner contre la résistance yéménite. Cela a échoué. Et en cela, maintenant, c'est une situation où même l'ONU n'intervient pas. L'ONU devrait faire des déclarations, en tout cas militer de manière beaucoup plus active pour essayer de mobiliser en tout cas les membres les plus influents du Conseil de sécurité afin que ceux-ci entreprennent des démarches qui viseraient à rédiger un texte qui prenne en compte la réalité telle qu'elle est aujourd'hui et qui surtout, plus que n'importe quoi, mettre en avant appel à la rupture de ce blocus qui ne peut plus être toléré. Merci. Indépendamment des questions politiques et militaires.
Merci pour ces éclairages, Maître Develet. Madame Medani, alors Maître Develet a parlé à juste titre de cette hystérie en effet médiatique mais aussi diplomatique occidentale. Alors, si vous faites un parallèle entre ce qui se passe au Yémen, ce qui s'est passé au cours des dernières années, de 7 dernières années au Yémen, et la situation actuelle, en Ukraine, justement là, on a l'impression que les pays occidentaux, les prétendus défenseurs des droits de l'homme, en effet, agissent non pas sur la base des considérations humaines et morales, mais sur la base d'alliances et des considérations politiques.
Absolument. Et donc, pas seulement d'ailleurs, nous avons vécu ceci en Syrie aussi, tout ce déchaînement médiatique contre la Syrie, contre toute force qui s'oppose au diktat américain. ces déchaînements médiatiques aussi contre contre aujourd'hui contre la Russie, alors que la Russie mène une opération quand même de nettoyage en Ukraine des nazis et surtout s'oppose justement à la présence militaire nucléaire aussi à ses portes, mais aussi contre l'existence de ces laboratoires qui travaillent sur des armes biologiques qui sont aussi à ses portes. On a bien vu ce monde qui se targue justement de droits de l'homme et puis de défense des êtres humains, qui aussi est non seulement complice de ces embargos criminels qui visent à affamer les populations, à multiplier les morts et les blessés, et tout ça appliquer leur diktat, le diktat américain, en fait, sur ces pays et sur leur politique, et en fait, continuer à piller aussi les ressources de ces peuples et de ces pays. On voit bien qu'en Syrie, les Américains, la présence américaine pille le pétrole, systématiquement le pétrole syrien, alors que les Syriens sont complètement laissés dans le froid, dans l'obscurité, et visent aussi à... ils essayent d'affamer... et donc en brûlant les cultures, en volant le blé, etc. Donc en fait, c'est l'ordre de la réalité. Ce sont des masques dont ils se parent, des masques humanitaires, etc., dont ils se parent, mais pour cacher leur politique d'avancée de contrôle, d'avancée de violation des souverainetés des peuples et de pillage systématique de leurs richesses.
Merci, merci infiniment.
C'est la politique impérialiste par excellence, en fait, de toute façon, et ça a toujours été.
Merci infiniment. Alors, on va tout de suite, alors je vais poser une toute dernière question à Maître de Velay. Maître de Velay, il nous reste 3 minutes, très rapidement, s'il vous plaît. Selon une récente information, l'Arabie saoudite aurait annoncé en effet une baisse de sa production pétrolière en pleine sanction occidentale contre le pétrole et le gaz russe. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire chanter les pays occidentaux, de les contraindre en quelque sorte à fermer les yeux sur les crimes que l'Arabie commet en effet au Yémen, ou encore peut-être de l'aider l'Arabie saoudite à sortir d'une façon honorable du bourbier yéménite?
Je pense que la seule façon pour l'Arabie saoudite de sortir du bourbier de façon honorable va être de se présenter eux-mêmes par le biais de leur équipe de négociation et de se rendre à Sanaa, se rendre à Canossa, comme dirait l'autre. On a pu constater récemment qu'au travers du JCC, Riyad avait instrumentalisé le Conseil des pays du Golfe pour essayer d'approcher la résistance yéménite avec une offre de négociation, mais qui était conditionnée à ce que la résistance yéménite vienne à Riyad, ce qui aurait été un affront, bien sûr. Ce n'est pas du tout un reflet de la situation militaire actuelle. Ansarullah et l'armée yéménite tient les rênes à la dynamique de leur côté, et ils ne vont certainement pas vendre l'honneur de la population civile yéménite pour un prix dérisoire qui passerait en plus de ça par Riyad. Maintenant, pour répondre à la question que vous aviez posée, je pense qu'il s'agit avant tout pour Riyad d'essayer de compenser les pertes économiques justement occasionnées par le conflit, parce que la guerre, ça coûte cher, et que dans ce contexte-là, ils essayent de jouer un petit peu à un système, ils seraient un peu celui qui donne les ordres auprès des États-Unis, ou conditionne les choses. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que les États-Unis attendent de Riyad que Riyad fasse ce que Washington dit. Et que dans ce contexte-là, ce serait peut-être un jeu dangereux pour Riyad d'imaginer qu'il puisse mettre un terme à 80 ans de pratiques bilatérales en conditionnant tantôt une augmentation de la production à une implication américaine accrue justement au Yémen, ou en pensant qu'ils peuvent garder, si je puis dire, leur capacité en deçà de ce qui est possible, afin de indirectement créer des dégâts économiques aux économies occidentales qui, en plus de ça, on s'aperçoit maintenant, se sont tirés une balle dans le pied en se privant du gaz et du pétrole russe. Et maintenant, avec le dollar qui est lui-même menacé dans son statut de réserve mondiale, c'est un jeu dangereux pour Riyad. On est plutôt en présence d'une direction qui n'a pas de stratégie globale, qui réagit au coup par coup à l'évolution géopolitique actuelle, mais qui risque de se brûler les ailes en faisant le mauvais calcul.
Maître Arnaud Develle, juriste international, analyste politique depuis Damas. Madame Aïssa Armidani, analyste franco-syrien des questions internationales depuis Paris. Merci infiniment d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.